à Washington.
Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30, temps universel. On est vendredi 16 février 2018 au sommaire. Le tout nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa prononce son premier discours devant le Parlement. Au moins 6 soldats congolais ont été tués dans des combats avec des militaires rwandais, selon un responsable des FARDC. Au Nigeria, des dizaines de personnes également tuées dans une attaque survenue dans un village de l'état de Zamfara. Et puis le président Donald Trump se rend aujourd'hui en Floride où 17 lycéens ont été tués mercredi. Enfin, ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Le tout nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa présente les grandes lignes de son plan d'action dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement. C'est au lendemain de sa prise de fonction. Et sur place, on retrouve notre correspondante Patricia Huon. Alors Patricia, Cyril Ramaphosa a commencé à s'exprimer, n'est-ce pas ?
Oui, Cyril Ramaphosa est en ce moment même en train de prononcer le discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. Il a salué plusieurs personnes présentes, y compris les anciens présidents Thabo Mbeki et Frédéric de Klerk. Il a aussi remercié l'ancien président Jacob Zuma, qui n'était lui pas présent au Parlement. Cyril Ramaphosa a été vivement applaudi, y compris par les députés de l'opposition. Dans son discours, il exprime sa volonté de construire une société meilleure pour tous les Sud-Africains. Il a rappelé sa promesse de s'attaquer à la corruption et la nécessité de travailler à réduire la pauvreté et les inégalités. La tâche est immense. L'Afrique du Sud est un pays doté d'énormes ressources, mais aussi toujours rongé par de profondes inégalités et un taux de chômage qui atteint des records à plus de 27%. Cyril Ramaphosa sait qu'il doit convaincre aujourd'hui. Son pragmatisme et sa modération rassurent les investisseurs, mais il va maintenant devoir prouver qu'il est aussi un homme d'action.
Voilà Patricia Huon, que nous allons retrouver également dans nos prochaines éditions. L'armée congolaise affirme avoir perdu 6 éléments lors d'accrochages avec des soldats rwandais en territoire congolais. Ces combats se sont déroulés dans l'est du pays lors d'une incursion de soldats rwandais selon un général congolais. Le point avec John Linden.
L'armée congolaise a enregistré 6 morts dans ses rangs et 4 blessés, dont 2 graves, d'après le général Bruno Madimvu, commandant de l'opération Sokola 2, chargé de la traque des rebelles hutus rwandais des FDLR. Alors que nous avions observé l'ordre de cesser le feu venu de Kinshasa, à la demande des autorités militaires de Kigali, les soldats rwandais ont continué de tirer, faisant 6 victimes dans nos rangs, a expliqué le général Mandevou. Mercredi, les forces armées de la RDC avaient fait état de violents combats près de la frontière avec le Rwanda. L'armée congolaise a accusé des troupes régulières rwandaises d'avoir occupé des positions à l'intérieur des frontières congolaises. L'Est congolais est déchiré par des conflits depuis plus de 20 ans. Des dizaines de groupes armés, soutenus parfois par des pays voisins, se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles.
John Lindon, l'opposition burundaise dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Selon le Sénared, une plateforme regroupant l'opposition en exil dans la ville de Bubanza, dans le nord-ouest, tous les passants étaient obligés de s'arrêter à des barrages et personne ne pouvait passer sans montrer son récépissé d'enrôlement. L'opposition estime qu'il y a peu d'engouement de la population pour ce référendum. Nous y reviendrons dans la partie magazine également. Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées par un gang armé dans un village de l'état de Zamfara, selon la police et des villageois. Le point avec Nathalie Barche.
La police a évoqué un bilan de 18 morts dans l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi à Birani. Mais 2 habitants affirment que 41 corps ont été récupérés avant d'être enterrés. D'après leurs témoignages, des bandits armés en moto ont attaqué un camion transportant des habitants. Ils l'ont arrêté, ont ouvert le feu, tuant tout le monde avant de se rendre au marché où ils ont également tiré sur la foule. Un habitant a dit que les milices de défense avaient ensuite lancé des représailles. mais selon la police de Zamfara, des chasseurs de Birani avaient tenté d'intercepter la veille un voleur présumé de bétail en brousse et les bandits leur ont alors tendu une embuscade. Les affrontements ont fait des morts des deux côtés, rapporte la police, affirmant que les forces de l'ordre avaient découvert 18 cadavres.
Au Sénégal, 7 ans de prison ont été requis ce vendredi contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de sa mairie. Le procureur Serigne Bassirou Gueye l'a réclamé dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel où Khalifa Sall et ses co-prévenus sont jugés pour le détournement présumé de quelque 2,8 millions d'euros des caisses de la mairie grâce à la production de fausses factures. La défense fera sa plaidoirie à partir de lundi. Le gouvernement guinéen a appelé au réalisme le leader syndical dissident Aboubacar Souma. Le porte-parole du gouvernement Albert Damantan Camara reproche aux enseignants grévistes de réclamer des augmentations de salaire trop élevées et sans distinction entre les enseignants du primaire ou du collège. Un tribunal kényan a condamné la veuve d'un imam radical à 10 ans de prison pour avoir fomenté une attaque contre un poste de police à Mombasa, dans le sud-est du pays, en septembre 2016. Selon la juge, l'enquête a déterminé qu'Ania Saïd était en contact avec les 3 assaillants 5 jours avant l'attaque et qu'elle les avait même provisoirement hébergés. Le groupe État islamique avait revendiqué cette attaque. Mais au Kenya, où la quasi-totalité des attaques djihadistes sont commises par des Somaliens Shabab affiliés à Al-Qaïda. Une des principales figures de l'opposition éthiopienne a estimé que la démission surprise la veille du Premier ministre allait apporter très peu de changements réclamés par une partie de la population. Ce que le peuple demande, c'est un changement fondamental, a déclaré Merera Gudina, le président du Congrès fédéraliste Oromo. Emprisonné depuis 2016, M. Merera a été libéré mi-janvier, devenant ainsi le premier opposant de haut rang relâché depuis que le gouvernement a promis le 3 janvier de libérer un certain nombre d'hommes politiques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'il allait se rendre en Floride cet après-midi et rencontrer des victimes de la fusillade dans un lycée qui a fait 17 morts. M. Trump n'a pas précisé quand il devait rencontrer les victimes, mais il a prévu de se rendre dans sa résidence de Mar-a-Lago, qui se trouve non loin de Parkland, où s'est produite la fusillade donc pour le long de ce week-end. L'ex-candidat républicain à la présidentielle américaine Mitt Romney a annoncé sa candidature aux élections sénatoriales de novembre. Il va compétir pour l'un des sièges de sénateur de l'Utah. Il s'inscrit déjà en porte-à-faux de Donald Trump. L'Utah accueille les immigrés légaux venus du monde entier. Washington envoie aux immigrés un message d'exclusion, a dit Mitt Romney aujourd'hui. La conférence sur la sécurité à Munich, grande réunion annuelle rassemblant responsables diplomatiques et militaires, a ouvert ses portes. L'Europe se retrouve face à l'administration américaine suite aux inquiétudes exprimées par Washington sur le projet de défense européen. Raissa Girondin.
Une 20aine de chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et de la Défense sont dans la capitale bavaroise pour ce rendez-vous annuel sur la sécurité. Une forte délégation américaine s'inquiète du projet de défense européen. Le tandem franco-allemand, les ministres de la Défense persistent et signent. L'Europe doit se doter d'une autonomie stratégique pour se défendre tout en restant fidèle à l'OTAN. L'Union européenne a lancé en décembre une coopération militaire inédite pour développer des équipements et des armements. Le président français Emmanuel Macron appelle par ailleurs à la création d'une force commune d'intervention européenne capable d'agir hors des structures de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé que la relance de l'Europe de la défense ne devait pas empiéter sur les prérogatives de l'Alliance. Nous saluons ces efforts du moment qu'ils ne concurrencent pas, mais complètent les efforts de l'OTAN, a-t-il souligné.
Quelques milliers d'Israéliens ont réclamé la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de la première manifestation à Tel Aviv, depuis que la police a recommandé son inculpation pour corruption. « Bye bye Bibi », pouvait-on lire sur certains posters en hébreu. Tel Aviv est depuis des mois le théâtre d'une manifestation hebdomadaire réclamant l'inculpation et le départ de Netanyahou au pouvoir depuis près de 12 ans au total. Un commandant d'un groupe djihadiste a été tué ce vendredi par une faction rivale dans l'ouest de la province d'Alep en Syrie. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon cette ONG, Abu Ayman al-Masri était un important chef du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Un tribunal turc a condamné à la prison à vie trois journalistes de renom pour leur implication dans la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Ils ont nié toute implication dans le putsch avorté, mais ont été condamnés avec trois autres co-accusés à la prison à perpétuité dans le cadre de ce procès critiqué par les défenseurs de la liberté de presse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Jean-Roger Bion qui nous présente la Minute Éco.
Le Parlement tunisien a validé jeudi la nomination d'un nouveau gouverneur pour la Banque centrale, Marwan El Abassi, ex-économiste de la Banque mondiale, après la démission la veille de son prédécesseur en raison d'une polémique. Mes principales inquiétudes sont l'inflation, le déficit de la balance des paiements et l'économie parallèle, a déclaré devant le Parlement M. Abassi, qui était depuis 2010 le représentant de la Banque mondiale en Libye. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a abandonné de nombreux impôts précédemment inclus dans l'annexe fiscale 2018 suite à un consensus avec le secteur privé. Les dispositions abrogées concernent la taxe sur les transferts d'argent, l'aménagement sur l'impôt synthétique et le relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire selon le communiqué du dernier Conseil des ministres du gouvernement ivoirien. Ces taxes faisaient partie des principales pierres d'achoppement entre l'État et le secteur privé. Et le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, va recevoir un prêt de 700 millions de dollars de la part du Japon. Les fonds qui seront décaissés dans le cadre d'un accord entre l'Agence japonaise pour la coopération internationale et le FAD devraient permettre à l'institution panafricaine de soutenir les plans de développement des pays les moins avancés et les plus pauvres d'Afrique.
Voilà, et c'est tout de suite la page des sports avec vous, Eric Manirakiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Regard sur le mercato d'hiver, les indemnités du Big Five ont flambé de plus de 70%.
Plus de 979 millions de dollars investis dans les transferts, Abdou, les clubs anglais, espagnols, allemands, italiens et français. Le Big Five européen, comme on les nomme, ont augmenté de plus de 70%. Il y a eu 3317 transferts internationaux en janvier 2018. C'est l'Angleterre qui a le plus dépensé, à hauteur de près de 483 millions de dollars.
Et le détenteur des droits télé du foot espagnol, sous le contrôle des Chinois.
Le contrôle chinois Orient Ontai Capital a pris le contrôle du groupe audiovisuel Imarina Media Pro pour 1 milliard d'euros, soit plus de 53% en plus des droits pour les matchs en Espagne de la Ligue des Champions et des droits télévisés en Italie. L'accord lui ouvre aussi l'accès au marché chinois.
Et si l'on en croit José Mourinho, tout va bien avec Paul Pogba.
L'entraîneur de Manchester United qualifie de mensonge et de spéculation sur une éventuelle bisbille avec son milieu de terrain. C'est un grand mensonge de dire que nous ne sommes pas d'accord sur son poste ou son implication dans l'équipe, a déclaré Mourinho. Et Manchester United doit affronter Huddersfield en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre samedi et demain.
L'attaquant de Manchester City, Jesus, de retour à l'entraînement.
L'obiteur brésilien n'a pas encore joué en 2018 et son entraîneur Pep Guardiola a annoncé son retour à l'entraînement vendredi. Il s'était blessé le 31 décembre contre Crystal Palace.
En Italie, Juventus veut gagner contre Torino pour oublier Tottenham.
L'objectif numéro 1 reste le 7e Scudetto. Malgré le match nul amer concédé face à Tottenham mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, s'est déjà tourné vers la rencontre de dimanche face au Torino. Et les Bianconeri peuvent compter sur le retour de Dybala, absent depuis plus d'un mois.
L'ex-président italien de Watford est inculpé pour blanchiment en Espagne.
Tout à fait, Rafael Riva est aussi cité à comparaître dans cette affaire de fraude fiscale présumée qui implique le club de Grenade et NBA. Minnesota a battu les Lakers 119-71. Milwaukee a perdu face à Denver 123-134.
Et ça, c'était la NBA. On se retrouve pour les prochaines éditions, Eric.
Merci à vous. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le Burundi doit tenir en mai prochain un référendum pour réformer sa constitution qui devra permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer deux autres mandats à partir de 2020. Son troisième mandat a déjà provoqué une crise dans le pays et Antonio Guterres, patron de l'ONU, a critiqué ce référendum non consensuel. Une bonne partie de l'opposition burundaise est partie en exil. Yakuba Ouedraogo a joint à Bruxelles Frédéric Bamvu Gumvira, président du Frodebu.
Le président actuel a trompé le public en disant c'est le deuxième mandat, laissez-moi son mandat parce que je ne peux pas continuer, donc pardon. Mais c'était pour tromper le public. Et voilà que maintenant, il cherche non pas le quatrième mandat, mais il cherche à rester au pouvoir parce qu'il veut changer la constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'était une stratégie pour amener son peuple à accepter de force le mandat qui était le troisième anticonstitutionnel et qui était contraire à l'accord d'Arusha.
Qu'est-ce que prévoit l'accord d'Arusha?
L'accord d'Arusha prévoyait qu'il n'y ait aucun président burundais qui dirige le pays au-delà de deux mandats. Et cette clause est aussi reprise par la constitution actuelle.
La campagne officielle ne s'ouvre qu'à deux semaines avant le scrutin référendaire et donc pour le moment il n'y a pas campagne.
Et qu'il y ait campagne ou pas campagne, c'est cela qui est prêché dans toutes les rencontres organisées par le parti au pouvoir, le FNDD-FDD.
Le parti au pouvoir dit entretenir actuellement une campagne d'explication du référendum.
Oui, il entretient une campagne d'explication alors que justement la période de la campagne n'est pas encore là et que mais cependant, c'est cela qu'il fait aujourd'hui parce que le pouvoir a peur que le peuple burundais ne vote pas justement le non. Il sait que c'est un pouvoir pratiquement antidémocratique, c'est un pouvoir antipathique qu'il voudrait voir partir, mais conscient de ça, la solution c'est de dire, eh bien s'il vous plaît, forcez la note, cherchez à intimider pour que tout le monde puisse voter oui. Ce qu'il montre aujourd'hui, au-delà, je dois vous dire, sur le terrain, aujourd'hui, vous êtes dans les travaux champêtres, vous êtes à l'école, vous êtes en voyage, vous circulez dans la rue, les policiers vous arrêtent et vous vérifient si vous êtes inscrit, parce qu'ils craignent que les populations ne boycottent cette inscription à ce référendum.
Pensez-vous que le peuple puisse voter non?
Le peuple peut voter non, mais qui va vérifier son non ou son oui? Ce sont les policiers, ce sont les militaires, ce sont ces milices dont il a couru. Ça veut dire s'il constate que le non a remporté, ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est de changer les urnes et dire voilà, il faut les bourrer de oui et essayer de faire disparaître le non qui aurait été voté par la population.
C'était Frédéric Bamvugi Nyuvira, président du Frodebu, joint à Bruxelles.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Conflits fonciers et intercommunautaires en Afrique, qu'en pensez-vous? Comment les résoudre? La législation permet-elle de les régler et de les éviter? Avez-vous des cas particuliers à exposer? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Niger, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'assistance dans le pays cette année, selon les Nations Unies. Pour faire face à cette situation, les partenaires humanitaires du Niger ont besoin de quelque 338 millions de dollars. Un plan de financement a été lancé à cet effet hier, et c'est ce que nous dit notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La situation humanitaire du Niger est marquée par la combinaison de vulnérabilités chroniques et aiguës, se caractérisant par une insécurité alimentaire dans des zones telles que Difa et Tillabéri, une malnutrition qui touche plus d'un million d'enfants, des déplacements prolongés des populations, particulièrement à Difa du fait de Boko Haram, mais aussi par des épidémies saisonnières et des inondations récurrentes. Les personnes touchées par ces vulnérabilités sont estimées à 2 300 000, soit près de 400 000 personnes de plus que l'année précédente. Binta Jubo, coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger.
Si vous voyez qu'il y a une augmentation, c'est que la situation a évolué. On l'a dit, il y a la situation sécuritaire qui impacte les populations et que cette situation, on ne l'avait pas l'année dernière. Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina, c'est un nouveau front qui s'est développé. Donc naturellement, il y aura plus de personnes affectées que l'année dernière. Ce plan que nous avons lancé ce matin va permettre à faire face à l'insécurité alimentaire à Difa et dans la zone de Difa et de Tillabéri et également prendre en charge des enfants qui souffrent de malnutrition modérée et aiguë.
C'est la septième année que ce type de plan est élaboré par les acteurs humanitaires du Niger pour faire face à l'urgence. Celui de 2017 a été financé à hauteur de 80%. Les autorités du pays espèrent que ce nouvel appel au financement connaissent le même succès. Yabila Maman, responsable de la cellule crise alimentaire au cabinet du Premier ministre.
Le plan qui a été déroulé en 2017, le niveau de réalisation a été à hauteur de 79%. C'est un bon niveau de réalisation. Vous avez vu aussi bien son Excellence Monsieur le Premier ministre que Madame la coordinatrice humanitaire a lancé un appel à tous les acteurs, donc y compris les partenaires techniques et financiers, pour qu'on se mobilise autour des objectifs de ce plan-là pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Répondant à certaines critiques qui leur reprochent un accent trop mis sur l'humanitaire aux dépens du développement, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger a affirmé que le sommet humanitaire mondial de 2016 a effectivement recommandé la recherche de complémentarité entre l'humanitaire et le développement, ce à quoi il s'attelle au Niger, dans la région de Difa notamment, qui a un grand potentiel pour cela. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le scandale sexuel qui secoue l'ONG britannique Oxfam intéresse le continent africain. Les pays qui accueillent les bureaux de cette organisation sont en état d'alerte. Au Burkina Faso, le sujet fait débat, comme l'indique dans ce reportage notre correspondant sur place, Issa Napo.
Haïti, Tchad, Soudan du Sud, le monde découvre les scandales liés à Oxfam. L'onde de choc s'est propagée jusqu'au Burkina Faso où Oxfam possède une antenne pays. Les réactions indignées se succèdent.
Il y a eu un scandale. Aujourd'hui, on apprend que dans les différents pays, il y a des viols, il y a quoi. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on les sanctionne. Mais qu'est-ce que pour qu'on les sanctionne réellement? Si on les sanctionnait réellement, je pense que ça n'est pas se répéter. C'est parce que j'ai laissé aller. On s'est dit, allez, on va nous prendre, on nous ramène dans notre pays d'origine, on nous remet, on n'a pas d'autres personnes et puis on avance.
Au bureau d'Oxfam à Ouagadougou, on est encore sous le choc de ces révélations d'agressions sexuelles et autres comportements inappropriés pour le directeur d'Oxfam Burkina qui prend des dispositions pour éviter la reproduction de ce phénomène inqualifiable, juge Omer Kabouré.
Ce sont des pratiques véritablement inappropriées qui sont aux antipodes des valeurs d'Oxfam, qui sont des valeurs de dignité humaine, des valeurs de solidarité et de justice. Pour dire par exemple qu'au niveau pays comme le Burkina, tous les personnels ont l'obligation d'adhérer au code de conduite. D'Oxfam prend des engagements qui sont signés et dans ce code, il est spécifiquement fait mention de la question des droits de la femme, notamment le harcèlement et les violences sexuelles. Il y a également un protocole de dénonciation qui est en place et je pense qu'avec l'ensemble de la communauté des ONG, nous pourrons travailler davantage en intelligence pour prévenir de telles pratiques et extirper de nos rangs toutes ces brebis galeuses dont les pratiques inappropriées entachent la noblesse de la mission accomplie par l'organisation.
Pour le docteur Siaka Ouattara, sociologue, il y aura forcément un avant et un après scandale Oxfam.
Forcément, il y aurait une rupture de confiance entre ces différents acteurs. Les bénéficiaires se méfieront et ceux qui travaillaient de façon honnête et sincère verront leur image écorchée par le comportement de certains de ces humanitaires. Donc, il faut vraiment travailler à punir de façon exemplaire les coupables pour essayer de rétablir cette relation. On voit qu'ils sont menacés de coupure ou bien de diminution des aides qui sont données par les différents États. Et si ça, ça arrive, ça veut dire que la capacité même de ces ONG-là va diminuer. La solution ici, ce n'est pas de rompre carrément, mais de sanctionner ou bien de dégager les brebis galeuses pour pouvoir maintenir l'action toujours de solidarité.
Les langues continuent de se délier avec d'autres organisations, éclaboussées elles aussi par le même phénomène d'agression et d'abus de la part d'humanitaires dans un tsunami médiatique qui n'est pas près de retomber. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Un film qui fait l'actualité en ce moment au cinéma, il s'agit de Black Panther du réalisateur Ryan Coogler. C'est l'histoire du roi d'un pays africain technologiquement avancé. Et on écoute donc le reportage de Jean-Roger Bion.
Nous sommes à la maison.
L'histoire se déroule à Wakanda, un petit pays imaginaire en Afrique qui cache un grand secret. Construit sur Vibranium, la planque la plus puissante de la planète, Wakanda possède la technologie et le pouvoir qu'aucun autre pays n'a jamais vu.
What happens now?
Ce qui se passe maintenant détermine ce qui arrive au reste du monde.
Après la mort de son père dans une attaque terroriste, T'Challa, incarné par Chadwick Boseman, assume les pouvoirs de la Black Panther et devient le nouveau roi. En fait, le cinéaste Coogler a créé un super-héros africain contemporain. Écoutons ses motivations.
Qu'est-ce qui définit Panthère Noir? Vous avez ici le thème de la responsabilité politique, vous avez le costume, les griffes, vous avez la force, nous avons le fait qu'il est africain, ce qui le rend unique.
Le film pose la problématique des risques et des avantages de l'isolationnisme politique d'un pays avancé. Wakanda devrait-il partager son pouvoir et sa technologie avec le reste du monde ou cacher et protéger ses ressources aux étrangers?
C'est ma responsabilité de m'assurer que Wakanda ne tombe pas entre les mains d'une personne comme vous.
Le scénario du film, en plus du héros noir, ont captivé l'imagination du public dans le monde entier, affirme l'actrice Lupita Nyong'o. La célèbre actrice d'origine kenyane joue le rôle de Nakia, une espionne au service de Wakanda et dont T'Challa est amoureux.
We have here a Marvel universe that is unapologetic.
Nous avons ici un univers qui dépeint le noir et nous voir nous-mêmes assumer un pays africain avec des rois et des reines et des guerriers, c'est tellement inspirant. Un pays aux grandes ambitions qui donne un nouveau souffle à l'esprit humain.
Dans une interview à VOA, Nate Moore, le producteur de Black Panther, et Ruth Carter, qui a conçu les costumes, ont dit que le but du film était de mettre en valeur la culture noire.
Généralement, dans le cinéma, quand on voit l'Afrique, c'est la pauvreté, le pillage des ressources. Le film met en avant un pays qui est le plus technologiquement avancé au monde.
Les vêtements colorés de Carter reflètent la tradition africaine et mettent en valeur les personnages, en particulier les femmes.
Ce sont des combattants réels, ce sont des généraux, ils ont des armes, ils doivent porter des armures. Mais ensuite, nous les avons fait d'une belle manière, les couleurs sont renforcées, l'armure ressemble à des bijoux. Les corps, d'une certaine manière, rendent hommage à leur histoire.
Selon M. Moore, le producteur du film, rien n'a été négligé, à commencer par le casting. Chaque détail a été minutieusement pris en compte.
Nous avons fait des grands efforts et avons eu beaucoup de conseillers culturels. Et une grande partie de nos acteurs viennent d'Afrique. Même notre coach pour les langues, Beth Maguire, et tous les figurants voulaient refléter l'Afrique. Je pense que pour le public afro-américain, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce film. Et je l'espère, de l'inspiration par rapport aux origines des Afro-Américains.
Que ce soit par la force de son message sur la fierté noire ou l'émancipation de la femme, ce film ne manquera pas de marquer les esprits et devrait battre des records dans la catégorie des super-héros.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Lionel Gaïma qui a réalisé cette édition. Merci à Dan Crafton à la console. Moi, c'est Abdourahmane Dia. Festival Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com. Retrouvez dans un peu moins d'une minute Henri Francis pour un autre point sur l'actualité. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les